Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur du mois et nous avons notre ami Pika, Thomas Munier, qui est venu avec un thème de podcast fantastique. Tu vas nous le faire découvrir. C'est...
D'abord, salut tout le monde. Donc le thème, c'est la créativité dans le jeu de rôle.
Oh là là, quel vaste sujet. Et pour répondre à cette vaste question, nous avons Jeff qui est avec nous. Ça va, Jeff ?
Comme toujours, la banane.
La banane, la pêche. Darky est avec nous également.
Bonsoir, la patate, la pêche.
Et puis nous avons un Grumph qui est là, dans le coin de la pièce. Et peut-être qu'il se lèvera pour dire non. Ça va, LG, la pêche ?
Ouais.
Excellent. J'adore ce petit côté cancre, mauvais élève au fond de la classe. Là, ça va être trop bien. J'espère que tu te lèveras et que tu diras.
Contre le mur ?
Ouais, c'est ça.
Enfin, le problème, c'est que le cancre, s'il se lève et il commence à vouloir tout casser, on est mal.
Ouais, on est mal. Allez, on va laisser tout d'abord Pika prendre un peu la parole, nous expliquer qu'est-ce que tu entends par la créativité dans le jeu de rôle. En fait, tu nous as dit voilà, j'arrive avec un sujet, j'ai envie de vous entendre sur ce sujet. Eh ben, exprime-toi d'abord, et puis on va faire un tour de table ensuite pour que chacun parle sur ce sujet. C'est parti.
Ouais, voilà. Bon, alors ce que j'appelle la créativité, on va pas faire une. Enfin, je suppose qu'on pourrait faire tout un podcast à définir le terme, mais ce serait juste chiant. Grosso modo, c'est quand t'es créatif, c'est que tu vas faire preuve d'inventivité, d'originalité, que tu vas essayer de faire quelque chose. Qui t'est propre, quoi. Donc tu te contentes pas uniquement de copier. Ça veut aussi dire peut-être que t'as une exigence de qualité, éventuellement une exigence d'esthétisme, mais bon, ça c'est un terme très fourre-tout. Et donc en fait, la question c'est est-ce qu'il y a de la créativité dans le jeu de rôle, et si oui, elle est à quel niveau, quoi? Est-ce qu'elle est au niveau de la création d'un livre de jeu de rôle, quoi? Donc est-ce qu'elle est au niveau de toute l'équipe qui travaille à faire ce livre? Et puis à l'intérieur de ça, c'est quelle partie d'un jeu de rôle est créative et laquelle ne l'est pas, quoi? Et puis le deuxième niveau, c'est est-ce que lui, le MJ, est créatif quand il prépare son scénario et quand il maîtrise? Et la dernière question, c'est est-ce que les joueurs sont créatifs? Voilà.
Donc en fait, c'est la créativité à tous les niveaux, si j'ose dire, de la production du livre à la table proprement dite.
Et si vous êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on l'aborde dans cet ordre. On parle d'abord de l'élaboration du livre de jeu de rôle. Quand on pense avoir défriché le sujet, on passe au MJ et puis enfin au joueur. Bon, je suis à peu près sûr qu'on va se rendre compte que c'est assez transverse, mais si on peut essayer naïvement de suivre ce plan au départ, ce serait
d'accord,
cool.
D'accord, ok. Donc, création du livre, ok. Ça marche. Alors, déjà, est-ce que... Bah là, il y a des producteurs de bouquins là autour de cette table. Enfin, il y en a un qui est dans le fond de la classe. Alors déjà, créativité au niveau des ouvrages.
Ouais, mais je suis dans le fond de la classe parce que moi, je suis un éditeur vendu.
N'importe
pas
quoi.
Un indépendant.
L'auteur, c'est n'importe quoi. Du point de vue de la créativité dans les bouquins. Alors évidemment, on pense au rôle de l'auteur, au rôle de l'illustrateur. Toi, par exemple,
l'équipe
Thomas...
L'équipe éditoriale aussi. Hein.
Ouais. Toi, Thomas, par exemple, t'as tendance justement à ne pas être créatif, Thomas Munier, au niveau des illustrations sur tes... Est-ce que tu vas les chercher sur Internet, sur un site là qui est super, avec plein de photos géniales?
Ouais, moi, mes images pour mes jeux, je vais les chercher sur Flickr et je récupère des images en Creative Commons. Alors après, j'essaie d'être créatif dans le sens où je fais des photomontages avec, quoi. Je les utilise pas brutes de décoffrage, quoi.
Est-ce que moi en tout cas, il y a un truc que ça m'inspire tout de suite, le thème de la création du bouquin. Si je peux prendre la parole, ça vous dérange pas si je commence?
Vas-y.
Il me sourit. Je parle trop, voilà. Moi, il y a un truc qui ça m'inspire direct. C'est toutes les problématiques que j'ai eues autour de la création de sens. À savoir que moi, comme je suis pas un gros éditeur implanté, comme disait Grumph, j'ai pas tous les moyens hollywoodiens pour produire. J'ai pas les publicités sur TF1. Donc du coup, j'avais une limite en termes de...
Non plus, on est juste le bonnet d'âne.
J'avais une limite en termes de mise en page, en termes de d'illustration aussi, parce que j'avais pas les moyens de payer un illustrateur comme ça. Et donc ça m'a poussé à être créatif, dans le sens où, étant donné que j'avais énormément de contraintes, que je pouvais pas faire par exemple de la couleur, Donc j'étais contraint en noir et blanc parce que sinon la couleur c'était trop cher à mon échelle, que j'avais pas, je connaissais pas non plus des illustrateurs capables de. Je parle pour le premier, hein, pour la première édition, parce qu'après c'est là que j'ai commencé à gagner de l'argent, à faire les premiers JT et tout ça, et c'est là que j'ai commencé. Enfin bref, mais en tout cas le premier, ça m'a poussé à être créatif. Le fait que dans le jeu de rôle il n'y ait pas finalement trop d'argent, qu'on est au départ on est un peu démunis, ça pousse à trouver des styles au niveau de la typographie, à changer de. Et ça je trouve ça marrant dans le milieu du jeu de rôle, le fait que comme on n'a pas beaucoup de moyens, eh ben on soit justement très créatif dans la façon dont on met en œuvre en fait le spectacle en fait. Et par exemple, moi c'est ça qui m'intéresse dans le jeu de rôle, c'est que si on voit bien le truc, c'est dans le jeu de rôle on est créatif par obligation. Il y a pas d'écran, il y a pas de manette, il y a pas de programmeur qui a fait le jeu avant nous. On est poussé forcément à être créatif. C'est un jeu qui dans lequel on peut pas imaginer, je pense, qu'il n'y ait pas de créativité. Alors que devant la télévision, en écoutant la radio, on peut écouter la radio sans pour autant imaginer même ce que les gens y racontent, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression de parler tout seul. En fait, ça me fait flipper de parler chacun notre tour comme ça. J'aime pas ça.
Si je peux intervenir, non, t'inquiète pas, Romaric.
C'est pas dans mon tempérament.
Je pense qu'à mon avis, par rapport à ce sujet-là, même si je pense que très rapidement, il va y avoir peut-être un tronc commun d'idées. Je pense que finalement, on a tous notre idée là, sur la chose. Moi, personnellement, si je peux rentrer là-dessus.
Jeff.
Donc, avec. Excusez-moi. Donc, je dirais, autour de la table, je pense que les moins expérimentés dans la première étape, c'est Darky et moi, grosso modo. À peu près au même niveau. Donc, moi, ce que je dirais, la première
après
chose.
Toi, t'as écrit quand même un jeu amateur au moins.
J'ai rien fait de figé, si tu veux. J'ai déjà repris des choses existantes, je m'investis.
Il y a un parasite au niveau du micro, c'est pour ça. On entend encore le vent. Ouais, c'est bizarre.
On va te poser là, peut-être.
Ouais.
J'ai pas vraiment produit quelque chose, si tu veux. Moi, je reste pour l'instant au niveau, j'ai écrit des scénarios, j'ai fait plus ou moins des JDR amateurs, mais sans forcément les paginer et compagnie, les rendre disponibles en PDF, si tu veux. Donc, pour moi, je pense que j'en suis à l'étape en dessous, quoi, encore. Mais toujours est-il, moi, quand tu me parles de création et compagnie dans la première étape, c'est-à-dire qu'on appelle ça l'équipe qui va concevoir et compagnie, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt, il y a un terme qui me vient en tête, c'est l'enfanter. Moi, j'aurais tendance à me dire déjà, ça va prendre un peu de gestation, réfléchir un petit peu à l'univers. Partons bien évidemment que c'est pas une adaptation d'une œuvre déjà toute faite, dans lequel t'as déjà un univers. Moi, je vais déjà prendre le temps de réfléchir à un univers, si c'est pas déjà un univers qui est déjà fait.
Alors, excuse-moi, mais si t'adaptes, t'adaptes un univers, t'es pas créatif, quoi.
Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce que tu me poses cette question-là. Je te répondrais que non, t'es quand même créatif si tu t'adaptes quelque chose. Le travail est différent, c'est tout.
T'es pas créatif de l'univers.
Comme là, si tu veux, t'as pas mis la barre sur est-ce que c'est une adaptation ou est-ce que c'est un truc que tu conçois du néant jusqu'à la création, on va dire. Enfin, j'espère qu'on me comprendra. Mais comme t'as pas orienté vraiment la chose, je fais qu'il y a une différenciation quand même. C'est soit une adaptation, soit c'est une création. J'espère ne pas vexer personne dans cette histoire.
Alors, ouais, là, tu parles de la créativité en tant qu'univers, en fait. C'est-à-dire, l'univers, est-ce que je l'ai créé ou pas ? Est-ce que j'ai été créatif ? Et du coup, tu dis une adaptation.
Bah, tu me connais, moi. De toute façon, ça a toujours été le truc en JDR qui me... Enfin, pas qui me fascine, mais c'est toujours le premier point que je vois, moi. Un univers, dans un... Que ce soit un JDR amateur, un JDR du commerce, un JDR indépendant, peu importe. Je me focalise généralement sur l'univers, moi. C'est la première chose.
Ouais, ah oui, c'est
vrai, ma première marche, moi.
Ah, et donc, du coup, je comprends pourquoi.
Okay. Donc, à la rigueur, tu seras plus intéressé par une équipe de jeux de rôle qui va inventer son propre univers, quoi. Ça va plus te parler, quoi.
Justement, bon, je veux pas être paradoxal non plus. Bref, il y a eu un podcast il y a quelques temps de cela sur l'adaptation. C'est vrai que moi, là-bas, je suis plus dans l'adaptation. Alors peut-être parce que je me sens pas capable de concevoir à l'heure actuelle quelque chose par moi-même d'original, quelque chose que j'aurais vraiment imaginé, que j'aurais produit véritablement. Donc pour l'instant, moi, j'étais plus sur l'adaptation, on va dire. Même si c'est vrai que j'aimerais tendre à concevoir quelque chose de A à Z, on va dire. J'espère que ça répond à ta question.
En fait, ouais, c'est ça, c'est la créativité. À quel niveau ? C'est ça qui manque vraiment. Enfin, chacun d'entre nous, on doit développer à quel niveau on se place, quoi.
Mais c'est volontairement pour tout. Moi, je veux savoir ce qui, justement, quelle partie du truc vous intéresse, quoi. Il vous parle, quoi. Ouais.
Moi, j'ai un petit souci avec la question.
Darky.
Quelle est la part de créativité dans les gens qui créent des livres, c'est ça ? Qui créent des livres de jeux de rôle ?
Par exemple, toi, en tant que public, hein, en tant que le mec qui va acheter un bouquin de jeux de rôle, est-ce que t'attends d'eux qu'ils soient forcément créatifs ou originaux ? Est-ce que tu crois que, par exemple, les univers qui vont marcher, c'est forcément des univers complètement zarbi, comme Jorun, ou je sais plus c'est quoi, Talis Lanta, où il y a 50 de races.
Là, tu demandes à mon jugement, quoi. Est-ce que je vais aimer plutôt les univers créatifs ?
Ça peut être une façon d'approcher la chose, ouais.
D'accord. Je croyais que ta question, c'était est-ce que.
Si t'as déjà vu des gens travailler ou si t'as une idée, c'est à ton avis, à quel moment, quand ils font un jeu de rôle, ils font preuve de créativité ? Sur quels aspects ? Est-ce que c'est sur l'univers ? Est-ce que c'est sur autre chose ?
Pour moi, à partir du moment où ils placent un titre et qu'ils écrivent une première lettre, ils sont créatifs. Ils sont en train de créer quelque chose. Et à partir du moment où c'est pas un copier-coller pur et simple, même s'ils copient, ils font un clone d'un autre bouquin, d'un autre jeu, d'un autre système, ils changent quelques règles ou même quelques phrases, quelques tournures, c'est créatif, on est d'accord ? Une traduction anglaise est créative.
Ouais, tout à fait.
Bon, bah dans ce cas, la question, elle n'existe pas. Tous les créateurs de jeux de rôle sont créatifs. Ah bah, forcément.
Mais du coup, toi, au niveau de ton jugement, est-ce que ça t'intéresse, par exemple, qu'on te propose un jeu qui a récupéré le système de machin, qui a récupéré l'univers de trucs, et qui a pompé des images sur DeviantArt
Oui, donc là c'est très personnel, mais j'ai l'impression d'être assez sensible à la créativité. Effectivement, quoi, quand un livre me brainfuck, quoi, dès la première page, je m'y attendais pas, je comprends pas, l'univers est un peu nouveau, etc.
Oh non, mais c'est beau, c'est la première fois que je l'entends celle-là.
C'est vrai ?
Je vais la réutiliser.
Sur les podcasts, on l'entend. Hein,
c'est un brainfuck. C'est un langage informatique, même. Je vous conseille d'aller voir ceux qui s'intéressent à ça.
Le nombre de fois où j'entends Darky parler brainfuck.
Ah, pardon.
Très bien placé, en tout cas.
C'est une épiphanie dès la première page. Pouf, une explosion de pensées et de nouveautés. Ouais, ça me séduit, mais après, c'est pas bizarrement. J'ai pas l'impression. Enfin, je vois ça comme une accroche, quoi. Comme un truc qui va me faire très fortement m'intéresser et me dire, ok, je lâcherai pas ce bouquin tant que j'aurai pas fini parce qu'il a réussi à me séduire sur ça. Mais à la rigueur, quelque chose.
Du coup, est-ce que tu vas le jouer ? Tu vois, est-ce que, à la limite, est-ce que ce genre de bouquin qui t'intéresse, c'est le genre de bouquin que tu vas jouer ?
Bon, clairement, je jouerai pas un jeu pour lequel j'ai l'impression qu'il n'a pas ajouté suffisamment. Voilà, un clone qui a changé trois noms, qui a changé un tout petit peu la couleur et j'ai l'impression de le cerner juste en le lisant, je vais pas du tout m'y intéresser et peut-être que sa jauge quoi créative a pas été assez importante pour me plaire.
Là c'est vrai.
Cela dit, il y a des bons remakes dans les films, il y a des bons reboots, c'est un peu bizarre ce que je dis mais oui, il y en a. Et là, la créativité, ils sont pas allés super loin. À la rigueur, c'est un problème qui touche le cinéma aussi. Hein. Aujourd'hui, on regarde les films qui sortent, il y a énormément de manque de créativité dans le sujet recherché. Il y a eu un remake de Total Recall, il y a un remake qui arrive de Robocop, etc., etc.
Puis pareil, tu prends aussi, excuse-moi, t'interromps, tu prends aussi la mode du biopic aussi quelque part.
Par exemple, ouais.
Le biopic aussi quelque part, faut avouer, c'est intéressant certes, mais.
Ouais, mais,
on connaît déjà l'histoire quelque part.
Dans ce cas-là, t'es en train de dire que les écrivains réalistes n'avaient pas trop d'imagination, ils n'étaient pas créatifs parce qu'ils dépeignaient simplement purement le monde. C'est un peu. Mais c'est intéressant. Hein. Est-ce qu'une œuvre d'art hyper réaliste, il y a beaucoup de gens qui se posent ça comme question. T'as certains peintres qui travaillent sur Photoshop et qui arrivent à une précision telle qu'on ne fait plus la différence entre une photo de son dessin et on finit par dire c'est bien mon gars, t'es arrivé tellement loin dans ta précision que ton truc on dirait une photo et puis t'as rien ajouté, c'est pas assez créatif. C'est intéressant aussi dans le sens-là.
Hors sujet, mais bon.
Ouais, un petit peu, ouais. Non,
si je peux me permettre de ramener juste le truc vers le jeu de rôle, et puis je pense qu'après je passerai la parole à Grump. En fait, tu parles de reboot, Vampire, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Tu passes de Requiem à Mascarade à Requiem, en fait, ils prennent la storyline et ils repartent tout de zéro. Bon, quand on parle de remake, bah quelque part les différentes éditions, tu prends l'appel de Cthulhu, les différentes éditions, en fait, ils se remake un petit peu. Et puis bah peut-être que après je sais pas de quoi tu voulais parler LG, mais peut-être que tu pourras nous parler de Bloodlust Metal quoi. Qui est, alors là je sais même pas, c'est on garde l'esprit de Bloodlust mais on twiste vachement de choses autour quoi. Donc est-ce que avec Bloodlust Metal on peut parler de copie, je suis pas certain quoi.
Je pense que
LG.
Ouais, je pense que déjà on parle déjà plus du tout de ce dont on parlait au début, mais ça m'étonne pas parce que je pense que la question était mal posée à la base. J'ai l'impression que là la discussion elle se pose pas autour de la créativité mais de l'originalité et du kitsch, pas de la créativité.
Il me semble aussi.
La question, c'est de savoir est-ce que la question que tu poses, c'est est-ce que il faut être original ou est-ce que on peut se contenter de reprendre des choses existantes, de les modifier un peu. Est-ce que modifier un peu des choses déjà existantes, c'est juste du kitsch ou ça peut être original? J'ai l'impression que c'est ça ta vraie question. Parce que pour ce qui est de la créativité, je pense que la créativité, c'est d'abord une obsession. Enfin, au sens où c'est un truc que tu fais parce que t'as pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors ça peut durer, certaines personnes, ça dure le temps d'un projet. On se lève un matin et puis, putain, faut qu'on écrive un truc, quoi. Faut qu'on écrive un jeu. Et puis quand le jeu est fait, ok, c'est cool. Maintenant, on passe à autre chose, quoi. C'est-à-dire que on a besoin d'un autre projet, etc. Mais c'est, et puis pour d'autres, ça peut être comme moi, par exemple, ça peut être une obsession au sens où tu te mets au bureau le matin pour bosser ou tu te roules en boule dans un coin, quoi. C'est-à-dire que c'est le truc qui fait que t'arrives encore à avancer un peu et à se dire voilà. Donc la créativité en soi, c'est des questions de motivation, c'est des questions d'envie, c'est des questions de d'investissement, c'est des questions de choses qu'à un moment donné t'as envie de faire et que tu fais et que tu vas au bout ou pas, mais c'est ça la créativité. Par contre après c'est vrai que c'est la question de l'originalité, c'est-à-dire on peut être parfaitement créatif en se levant un matin et en se disant bon, il faut que je me fasse ma version de Conan et donc je vais aller piller le Conan de Moongoose, le Conan de GURP, les bouquins réédités chez Bragelonne, les trucs amateurs qui sont passés à droite à gauche, récupérer un bout de Barbarian of Lemuria, un bout de Beast and Barbarian, un bout de ceci, un bout de cela, faire ma cuisine interne et finalement arriver à faire un monde de Sword and Sorcery qui convienne à ce que j'ai envie de jouer, quel film Conan, qui machin, qui convient à ma table. Et une fois que c'est fini, ok, j'étais au bout de mon obsession immédiate. Est-ce que c'est original? Est-ce que c'est de la création? Enfin, est-ce que c'est original ou est-ce que c'est du kitsch? Est-ce que c'est que de la reprise, etc. À la limite, je dirais que la question, si on se pose d'un point de vue de créativité, la question se pose pas en termes d'originalité et de kitsch. Et inversement, si on se pose en termes d'originalité et de kitsch, la question de la créativité se pose pas. Au sens où elle est annexe, où on s'en débarrasse, puisque dans les deux cas, elle est là. Je pense qu'il faut, à un moment donné, je pense qu'il faut resserrer peut-être ta question, notamment parce que cette question de création ou de créativité, quand tu vas redescendre sur les joueurs et le MJ, elle se pose pas du tout de la même manière, ou elle se pose pas dans les mêmes dimensions. Mais par contre, la question de l'originalité du kitsch, c'est-à-dire est-ce que à une question donnée j'essaie d'apporter des réponses nouvelles ou est-ce que je recycle des réponses existantes pour une question donnée, effectivement peut se poser auprès des joueurs, peut se poser avec un principe de répétitivité, des mecs qui jouent qui font du dungeon crawling depuis 30 ans et qui répètent les tactiques qu'ils ont mis au point il y a 25 ans et qui continuent à la répéter et qui descendent the largest dungeon in the world pièce par pièce et qui y arrivent parce que voilà, ils répètent etc. Mais là la question elle est pas d'être créatif ou pas. Ils ont été créatifs à un moment et puis depuis ils sont dans le ils ont été originaux à une époque plutôt plus que créatifs et depuis ils apportent pas forcément de nouvelles réponses. Mais c'est là aussi que se posent toutes les questions de savoir est-ce que par exemple un jeu comme Dungeon World qui veut faire du donjon comme donjon original. Est-ce que c'est juste une copie? Est-ce que c'est du kitsch? Est-ce que c'est original? Est-ce que ça apporte quelque chose ou pas? C'est toute la grande question que les gens se posent autour d'Apocalypse World, du moteur Apocalypse World. Ouais, mais Apocalypse World, finalement, on joue déjà comme ça. Pourquoi est-ce qu'il met des règles pour le MJ, etc. Bah ouais, c'est une bonne question. Et en même temps, est-ce que c'est pas aussi apporter de nouvelles réponses à des questions déjà posées? Auquel cas, c'est pas kitsch, c'est original. Et ça sert ou ça sert pas. Mais la question est donc pas la créativité, en fait.
D'accord. De ce point de vue-là, du coup, ma première intervention est un peu décalée. C'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé le sujet. Mais du coup, parlons de l'originalité, alors, du coup. Jeff.
J'ai peut-être tort, hein, en même temps. Avis de.
Non, non, mais je suis vraiment entièrement d'accord avec ton analyse du sujet et tout ce que t'as dit.
Jeff. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, pour moi, personnellement, je pense déjà autour de la table, personne n'a tort, personne n'a raison. C'est des points de vue, tout simplement. Mais je dirais peut-être pour répondre, pour faire un lien entre ce que disait LG et Eddie Pika, comme question. Je pense que quelque part, c'est prendre un axe par rapport à sa création. Je m'explique. Est-ce que ta création, tu vas l'aborder dans un axe, je dirais, conformiste quelque part, c'est-à-dire que tu vas prendre déjà tu vas t'inspirer de choses existantes et compagnie, et ça va être finalement ton propre traitement qui va être original, et dans ce cas-là, créatif. Ou est-ce que ça va être un autre axe, je sais pas, je dirais visionnaire quelque part, où tu vas te dire, je vais aborder quelque chose, je vais aller sur un terrain dans lequel personne d'autre n'était parti avant, entre guillemets, peut-être le côté un peu pionnier, quoi, horizon, ce genre de choses. Ou, j'en vois que trois. Le côté un peu conformiste, le côté peut-être un peu visionnaire, et la dernière, le côté un peu, je dirais, évolutionniste, évolution. C'est-à-dire, tu vas aborder la chose en te basant sur ton expérience, sur ce que tu as vu, et tout, on va dire,
que les précédents.
Voilà.
Je vais ajouter ma pierre à l'édifice.
Voilà. Je pense que, enfin, moi, c'est les trois axes qui me viennent en tête comme ça, à brûle pour point, enfin, si je dois faire un plan.
LG, tu disais qu'il fallait qu'on resserre les boulons du sujet, mais en fait, je t'ai fait un sujet tout déboulonné, parce que ce qui m'intéresse, c'est toi, comment tu les resserres les boulons, quoi, en fait. Et du coup, ça m'a vachement intéressé ce que tu disais, parce que t'as dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, quoi.
En fait, moi, c'est ce que j'avais noté aussi au départ. J'avais noté, est-ce que l'originalité, en fait, pour moi, le sujet, j'avais noté ça comme ça. J'avais dit, est-ce que finalement, l'originalité, ça existe vraiment, à savoir que toute création, quelle qu'elle soit, c'est jamais qu'une chimère, des morceaux de ci, de là, piochés à droite, à gauche. Et ce qui compte, c'est finalement quel morceau on a sélectionné pour sa recette à la fin, quoi. Quand tu donnais l'exemple de Conan tout à l'heure, tu te lèves le matin, tu te dis je vais faire un Conan, c'est ça en fait que t'es en train de faire. T'es en train de prendre des morceaux de ci, de là, tu dis putain ça j'aime bien, il y a ça que j'aime bien dans Conan, à tel endroit, pour tel auteur, il a vu tel truc qui me plaît, et toi à la fin, tu vas mélanger tout ça, mettre du lien, créer un système de jeu pour orienter les gens vers ce modèle-là qui t'a plu. Et c'est ça, en fait.
De toute façon, connaissez le proverbe, hein, l'originalité, c'est un plagiat dont on reconnaît pas les sources. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est typiquement ça. Enfin, ça fait longtemps qu'on sait qu'on peut pas être, on peut pas être, avoir d'imagination sans une connaissance du monde ou, enfin, des bases. Plus tu connais le monde, plus tu peux avoir de l'imagination, puisque c'est le principe de faire se toucher des neurones qui normalement devraient pas se toucher. De faire coexister des faits qui devraient pas coexister, et c'est de là que naît la poésie, c'est là que vient créer, enfin, le fait d'amener des choses qui n'existent pas. Maintenant, je pense que la grosse différence entre c'est effectivement d'utiliser du matériel qu'on reconnaît, et après ou pas. Et ensuite, éventuellement, d'assumer. Tu parlais de Bloodlust. On a clairement fait un remake, donc c'est du matériel connu, reconnu, qui est... Et à partir de là, les auteurs ont amené leur relecture de la chose. C'est-à-dire, ils ont viré ce qui les intéressait pas. Ils ont gardé les choses en surface. Ils ont remanié des choses en profondeur. Ils ont rajouté des détails. On a imaginé les détails autrement, c'est-à-dire que un des par exemple, un des premiers trucs qu'on a voulu faire, c'est que la carte soit bien à l'échelle, enfin à l'échelle visuelle de ce qu'elle est censée représenter. Parce que quand tu prends les cartes de la première édition, t'as l'impression de pouvoir traverser l'Antarctique en 15 jours de voyage, alors que c'est 4000 kilomètres, quoi. Donc déjà, rien qu'en redonnant de l'espace, etc., en essayant de retordre les distances sur la carte et dans les descriptions, ça a changé énormément de choses dans le jeu et dans la perception qu'on pouvait en avoir et qu'on pouvait en donner, etc. Donc c'est des petites choses comme ça, mais pour autant, ça se base sur un travail déjà existant et assumé comme existant. Après, on peut faire la même chose sur on prend d'autres jeux ça se base sur des choses qui des inspirations, des trucs qui nous plaisent mais qu'on assume pas forcément ou qu'on assume de loin sans forcément aller chercher le matériel exact réel etc.
Oui. Donc la créativité au niveau d'un livre, parce que en fait il me semblait qu'il y avait plusieurs étapes dans le plan que tu nous proposais, Pika, c'est-à-dire que il y a un peu le côté le livre, comment les règles qu'on transmet au meneur, et ensuite le meneur et ses joueurs, en fait, c'est ça. Et du coup dans le livre, où est-ce qu'on retrouve cette créativité, cette originalité dans tu te dis tiens, et moi j'ai un super exemple. Quand j'ai rencontré le Grumpf, il était un des premiers en France à faire ce petit format, tout petit format John Doe. Et il m'a expliqué par A plus B, le premier jour où on s'est rencontrés, tu m'as expliqué pourquoi est-ce que tu trouvais que c'était l'avenir du jeu de rôle. Et moi, il m'a convaincu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, Sens Exologie, c'est un livre de poche. Et alors qu'en fait il est énorme et que c'est pas du coup ça reste, c'est marrant parce que j'ai pris le truc du livre de poche de Grumpf, mais en même temps c'était pas du tout accessible comme il m'avait convaincu en me disant il faut que ce soit lu l'après-midi, joué le soir avec tes potes. Or sans c'est un petit peu plus épais, donc en fait théoriquement je respecte pas ce que t'avais dit, mais quelque part sur le livre
comprend les notes de bas de page.
Ouais voilà c'est ça en plus. Mais techniquement tu vois au niveau de la créativité là j'avais pris quand tu as parlé livre, pour moi, je parle l'objet concret, tu vois. Les illustrations, la mise en page, ouais. Le bouquin.
Justement,
c'est pour ça
je te coupe juste parce que, en fait, avant d'enquiller sur le sujet suivant, j'allais vous demander de faire un petit florilège des différents aspects, en fait, du livre où tu peux faire preuve de créativité, où tu as un vrai travail. Et donc, parce que, effectivement, il n'y a pas, on parlait d'univers tout à l'heure, mais. Il n'y a pas du tout que ça. Ouais. Tu donnes un super exemple inattendu avec le format du livre.
Voilà.
Tu dis clac, tiens, passant de A4 à A5, ou c'est même plus petit, tu vois, finalement, en fait, là, on a une vraie nouvelle idée, quoi. Et qui n'est pas anodine, qui ne sert
exemple,
pas à rien.
Par exemple, pour
quoi.
Sens, c'est carrément parce que comme je m'inspire des ouvrages de philo, là, tu vois, Grumpf parlait des notes de bas de page, c'est ça. C'est qu'en fait, le livre, quand tu le prends, tu dis, attends, c'est quoi ce truc? On dirait un livre d'Aristote qui a été traduit par un mec qui a fait des notes de bas de page partout. Si vous avez déjà lu du Aristote ou des vieux philosophes grecs, le traducteur et parfois même l'auteur lui-même a fait plein d'annotations. Et donc, du coup, on se retrouve avec un texte qui fait 4 lignes et des notes de bas de page qu'en font. Et ça, c'est esthétique, c'est volontaire. Pour le coup, c'est de la créativité. Un autre point par rapport à Sens, mais aussi par rapport au format, c'est est-ce qu'on le diffuse en PDF ou pas ? Par exemple, pour Sens, j'ai dit non typiquement au PDF parce que, en PDF, lire des notes de bas de page, c'est insupportable. Avec ta souris, tu navigues du haut vers le bas, c'est insupportable. Et d'autre part, je trouvais que c'était un livre qui se prêtait bien à l'intimité. C'est-à-dire que tu l'as dans les mains, il est avec toi, dans ton lit, le soir, t'es seul, t'es devant ton livre. Alors que un PDF, c'est quelque chose que tu lis sur ton PC entre deux pages internet.
Allez, attention.
Rome ne connaît pas les liseuses, hein, qu'on lit dans notre lit et qu'on ne scrolle pas en bas.
À l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, quand Sens est sorti, ça n'existait pas.
Genou.
Et ça c'est un premier point. Mais d'autre part, je trouve que Sens est un jeu qui se prête bien au livre papier. Parce qu'il y a, dans Sens, il y a une analogie entre le livre et les runes qui sont présentes dans le jeu. Et donc, du coup, l'avoir sur un fichier informatique, c'était contre-immersif et contre, voilà. Donc, là, tu vois, créativité directe. Enfin, au niveau du format, je pense, voilà, la manière de diffuser, c'est aussi.
Ouais. Darky parle des liseuses. Et en fait, moi, je sais que mes jeux, j'ai fait tous en A5, et notamment parce que je sais que pour la liseuse, c'est assez optimal comme format, quoi.
Mmh, effectivement. Oui, c'est vraiment pensé à fond le livre. L'autre jour, je regardais L'Ordre du Contrevent. Il y a une créativité dans ce bouquin. Les pages sont numérotées à l'envers. On commence à la 800e page, et puis plus ça va, plus tuc-tuc-tuc-tuc-tuc, c'est un compte à rebours.
C'est brillant.
C'est brillant.
Par rapport au bouquin, et c'est là que j'en reviens au premier point que je voulais dire et que j'ai mal exprimé au début de ce podcast, parce qu'effectivement le sujet n'était pas encore si bien balisé que cela. Les contraintes que chacun d'entre nous a de par les logiciels qu'il utilise, les joueurs à qui il veut le transmettre, etc., nous poussent là aussi à être créatifs. Et
Alors, être créatif, non. À trouver des réponses. Mais les réponses.
Trouver des réponses, ouais.
Ouais, mais ça. Les réponses peuvent déjà exister ou être nouvelles.
D'accord, excuse-moi. Ouais,
tu vois, c'est. Ouais, encore une fois, la question, c'est pas la créativité.
D'accord, oui.
La question, enfin, je pense. Je pense qu'à chaque fois, on est face à des. Ce qui va devenir intéressant dans un jeu, ou dans un bouquin quelconque, enfin, hein, et dans toute. Dans toute création au sens large, artistique ou pas d'ailleurs, c'est la réponse. On cherche à apporter des réponses à des questions qui peuvent être des questions très personnelles et qui n'ont pas forcément de, qui sont même pas forcément formulées de manière formelle. Et puis où ça peut être des questions extrêmement pratiques, effectivement, le format du bouquin, le type de papier qu'on va utiliser, le type de logiciel qu'on doit utiliser, le type de jeu, dans le jeu de rôle en tout cas, comment est-ce qu'on présente des règles et qu'est-ce qu'on met dedans, dans quel ordre on les met, pourquoi, comment, est-ce qu'on met les règles avant la création de perso, après la création de perso, avant le monde, après le monde, etc. Tout ça, c'est des questions complètement pratiques. De la même manière quand on écrit un monde, on a quelques idées générales de j'aimerais bien qu'il y ait ça dans le monde et qu'il y ait telle ambiance, tel truc, etc. Il y a tout à un moment brainstorm et puis après il faut structurer ça et puis il faut se dire, faut apporter des réponses. On a soulevé des questions, on apporte des réponses, et les réponses ça va être quel type de méchant, quel type d'opposition, quel type d'adversaire, quel type d'aventure, quel type de scénario, quel type de personnage pour quel type de joueur, enfin typiquement si on veut pousser dans ce que vous aimez ici, enfin des genres de questions que vous vous posez sans doute beaucoup et qu'on se pose aussi, hein, je veux dire nous pour Exil, on a écrit quasiment Exil, enfin on avait pratiquement fini d'écrire Exil quand tout d'un coup on s'est dit ouais mais au fait on joue quoi. C'est-à-dire que c'était un monde très, il y avait des règles classiques, enfin, dans tout jeu de rôle il y a des règles, donc il y a des règles, on a un monde super poussé avec des détails dans tous les sens, super, voilà, parce qu'on avait pensé à tout, la politique, l'économie, les égouts, l'énergie, les ceci, les cela, et puis à un moment donné on se fait ouais mais quand on lance une partie là pour l'instant les joueurs, on leur dit, créez un perso, puis on se démerdera, on vous trouvera un scénario. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait que les joueurs vont aller à l'aventure? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont être différents des autres? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont être ensemble? Qu'est-ce qui va les tenir ensemble, etc. Et on a vaguement bricolé un truc qui s'appelle l'hypersensibilité le syndrome d'hypersensibilité chronique. Et on a vaguement, enfin, Manu avait bricolé ça. Bon, ça nous a pris un peu de temps quand même pour trouver l'idée et l'arranger dans le bon sens, mais c'était complètement un rajout par rapport à des questions qui se sont posées tard dans le jeu, par exemple. Aujourd'hui, c'est des questions. On commence par se poser cette question-là, en fait.
Bah oui, absolument. Mais, c'est ce que j'allais dire.
Voilà, aujourd'hui, on commence par se poser. Et des fois, peut-être à tort, parce que peut-être qu'il y a des jeux où on devrait pas se poser cette question. On devrait juste écrire le monde et puis laisser les gens se trouver la réponse. Tu vois. Mais typiquement dans Oltre, c'est parti d'abord de cette question. Qu'est-ce qu'on joue et comment on va y jouer? Quand je joue à Panopticon, donc mon jeu cyberpunk, on joue des journalistes. La question c'était, on va jouer des journalistes dans un monde cyberpunk. Comment on y joue? Donc après on apporte des réponses. Alors les réponses, ça peut être effectivement des réponses originales au sens où on trouve pas de réponses autres ou déjà faites ou qu'on a déjà formulées par le passé. Et on trouve de nouveaux trucs, ou alors ça peut être des réponses qu'on a chopées chez les copains dans les jeux qu'on a lus, ou des choses qu'on a déjà travaillées sur d'autres jeux et qu'on se dit ouais ça fonctionne plutôt bien dans les autres jeux, pourquoi est-ce que je vais pas le réutiliser. C'est comme ça qu'on invente un jour on invente les compétences dans le jeu de rôle et qu'ensuite il y a des compétences dans tous les jeux. Et puis, il y en ait besoin ou pas. Voilà, parce que la solution a été trouvée. Et puis après, par contre, on a besoin de compétences, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en met 2000? Est-ce qu'on en met 5? Est-ce qu'on en met est-ce qu'on en fait des métiers? Est-ce qu'on fait des grands domaines avec des sous-spécialisations, etc. Donc chacun va travailler va trouver la réponse en fonction de ses propres obsessions, ses propres envies, ses propres intérêts, sa propre méthodologie, sa propre pensée, son schéma de ses schémas de fonctionnement. Il y a des matheux qui vont adorer les listes et à la rêve de dragon avec des bonus de moins 11 à plus 7 croisés dans un tableau avec les caractéristiques et ça fonctionne très très bien sur table, ça on se pose pas de questions, ça tourne merveilleusement. Et puis mais sauf qu'il y a des joueurs qui supportent pas ça parce que tout de suite un tableau, des chiffres, mon Dieu, il y a un blocage psychologique, donc il faut trouver une autre solution. Voilà. Et on peut jouer à Rêve de Dragon sans le tableau, avec juste une petite formule toute bête, très simple. Mais sauf que il faut la trouver, la petite formule toute bête. Donc il faut être mathématicien pour la trouver. Puis après, faut jouer avec aussi. Tu vois. Mais ça fonctionne.
C'est curieux, je trouve, de créer un monde sans penser.
Justement, moi, il y a un truc qui me vient en tête, toujours dans la première étape donc de la conception du jeu.
Si tu veux, je pense qu'après on passera à la suite. Après ta réponse. Quoi.
Ok, il y a pas de souci. Donc ouais, toujours dans cette première étape, je pense que quelque part il y a de la créativité, ne serait-ce qu'à partir du moment où l'équipe, l'auteur, peu importe, a son univers. Ok, c'est ça que je veux faire en JDR. Il y a de la créativité. Et c'est très bête ce que je vais dire, mais je l'assume. C'est par rapport au système déjà même qui va utiliser pour qu'on puisse interagir dans l'univers. Je rebondis plus ou moins sur ce que disait LG, c'est que effectivement il y a eu ce principe de compétence. Maintenant tout le monde fait des compétences. Donc effectivement la créativité elle est là, c'est de se dire par rapport à l'univers que je veux faire, comment je vais utiliser un système de règles. Je ferai référence aussi à un podcast Garage sur le conflit, par exemple, qu'on avait fait à l'époque, où, effectivement, pour moi, c'était vachement original, j'avais pas pensé à l'époque, mais je fais un jeu de rôle, est-ce que j'ai besoin d'un système de combat? Bah, si, entre guillemets, mon JDR va pas aborder la problématique des combats, qui risque pas d'avoir de combat, bah, j'ai pas besoin de faire un système de combat. Alors que, la plupart du temps, tout jeu de rôle que tu prendras, il y a au minimum un système de combat.
Ou est-ce que tu as besoin de dés? Est-ce que tu as besoin d'une feuille de perso? Voilà. Est-ce que tu as besoin d'un MJ?
Finalement, je crois que tu as un peu de ta créativité. Enfin, la créativité est là, quelque part aussi, à ce niveau-là, je pense.
On passe à l'autre point, qui est comment... vas-y, Pika, comment tu le présenterais, cet autre point? Le meneur de jeu, la créativité du meneur de jeu.
Ouais,
vous êtes tous meneurs de jeu autour de la table.
La question, c'est... Est-ce que les MJ doivent être créatifs? Est-ce qu'ils le sont? Et si oui, comment ils le sont? Avant de vous laisser la parole, tu prends un exemple. Si tu joues dans Sombre, la première revue, t'as un scénario, House of the Rising Dead, un scénario avec des zombies et tout. Le scénario, il a été playtesté, je sais pas, 100 fois, 150 fois, un truc, enfin non, pardon, ouais, oh, une centaine de fois, allez hop, à la louche, quoi.
Ça m'étonnerait pas, hein, parce que rien...
Le truc est au cordeau, enfin, c'est un jeu vidéo, tout est codé, enfin, tout le scénario est codé. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que MJ, tu prends le truc, tu fais jouer le truc, comme si tu expliquais les règles d'un jeu de plateau. Et donc, t'as rien besoin d'inventer, tout roule tout seul, quoi. La question, c'est, est-ce que ça se passe toujours comme ça? Est-ce que c'est nécessaire? Et voilà, est-ce que le MJ fournit un boulot créatif? Est-ce qu'il doit le faire et comment il le fait, quoi?
Là, on retombe, à mon avis, sur ce que disait LG tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au final, le scénario, il est là. Et après, toi, en tant que meneur, tu vas en prendre ce qui va t'intéresser dedans, les morceaux, etc. Après, tu dis, il a été playtesté plein de fois. J'imagine par Johan et par des proches de Johan. Mais après, on n'a pas la même sensibilité que Johan. Et peut-être qu'on ne va pas le maîtriser de la même manière. Donc là, on va retomber un petit peu dans... Pareil, quoi. Donc le meneur, oui, il a la créativité au moment où il fait ses choix à la lecture. Déjà sur ce qu'il va retenir et ce qu'il ne va pas retenir. Parce qu'un livre, par exemple, tu prends un livre aussi volumineux qu'un livre de jeu de rôle en règle générale. Je ne parle pas de Dragon de Poche. Mais voilà, évidemment, tu ne vas pas tout retenir, tu vois. De la même manière, Sombre Zéro, c'est très court, mais Les autres sombres, ils sont plus volumineux déjà. Enfin, ils sont pas énormes, hein, attention. Ils sont, il faut raison garder, quoi, 20, 30 pages. Voilà, qu'est-ce que tu vas retenir?
Ouais, les règles, ouais, c'est une vingtaine de pages, je crois. Ouais, même pas.
Même pas. Et voilà, qu'est-ce que tu vas retenir? Et c'est là, en fait, que tu fais preuve, entre guillemets, de créativité, ou en tout cas que tu sélectionnes et que tu fais ta propre soupe avec ce qu'on propre.
Tu te poses des questions et tu trouves des réponses.
Voilà, c'est ça.
On revient, et puis après, tes réponses, soit c'est des réponses que tu trouves qui sont déjà écrites, éventuellement même dans le bouquin. Si le scénario est bien fait ou s'il est vraiment super directif, etc. Soit des choses que tu inventes parce que ça te fait plaisir, parce que tu as envie de. Tu trouves que tu es meilleur que les auteurs originels du jeu, ouais. Que tes joueurs te filent des réponses qui activent tes neurones et que tu imagines des choses qui n'existaient pas avant mais qui font sens. Et voilà, c'est tout.
C'est ça. Donc. Je vois pas comment on ne pourrait ne pas être, encore une fois, créatif en tant que meneur de jeu. Jeff. Est-ce qu'il y a des meneurs autour de vous dont vous diriez, lui par exemple, quand tu joues, ben, je le trouve pas spécialement créatif ou je le trouve pas spécialement... Moi j'en connais pas.
C'est ce que j'appelle plutôt les deux jeux lecteurs.
Ah oui.
C'est, mais bon, là, par contre, là,
auquel cas là c'est à leurs joueurs de faire leur soupe parce qu'ils lisent ce qui est dit dans le livre. Ça existe.
Gros, t'as des lecteurs et puis je pense aussi effectivement alors les maîtres de jeu lecteurs ça fonctionne. Du coup tu vois quand t'as des maîtres de jeu comme ça tu vois si le scénar est réussi ou pas quoi. Si le scénar est bien gaulé ça va à peu près bien se passer, c'est-à-dire que le mec il va appliquer comme si t'avais un livre dont vous êtes le héros, il va appliquer tous les trucs qui sont en fait il va lire les descriptions qui sont dans le scénar. Donc Toulouse par exemple quand un scénar de l'appel de Cthulhu, tous les lieux où t'es censé aller, qui sont importants pour le scénario, ils sont tous décrits. Donc si tu veux, tu peux lire la description, clac clac clac, ah bah vous trouvez tel parchemin, hop, tu sors le parchemin imprimé, alors en plus je suppose que c'est avec son détour, t'as des super aides de jeu trop belles quoi. Et donc t'as acheté les montagnes hallucinées, t'as carrément une boîte de matos, donc tu peux filer toutes les
aides de jeu. On appelle ça des clés en main généralement, c'est ça quoi.
Toutes tes clés en main, ils vont à tel endroit, t'as telle description à dire, c'est limite si ce que disent les PNJ c'est pas scripté, t'as les dialogues du PNJ quoi.
Carrément.
Et puis je pense à un autre style. J'avais promis de vous laisser parler, je sens que je déborde. T'as un autre style, c'est des maîtres de jeu, ils vont pas te lire un script, mais par contre ils ont assimilé l'univers sur le bout des doigts. T'as les djihadistes de Tolkien, t'as les ayatollahs de L5R, où si tu veux ils ont tellement...
Je vois pas de quoi tu parles.
Ils ont tellement l'univers et la storyline en tête, qu'en fait... TPJ font quelque chose dans l'univers, lui c'est exactement comment l'univers doit réagir parce que voilà, c'est écrit que si tu fais telle chose, si tu dis telle chose à L5R, ça pose un problème d'honneur et le mec en fonction qui est en face de toi en fonction du clan dont il fait partie, il va répondre d'une façon ou d'une autre quoi. Et en fait, presque le MJ va presque te répondre comme un programme quoi.
Et donc là, tu dirais, il y a pas de créativité. Pardon, Darky, tu voulais dire quelque chose.
Non, c'était juste une anecdote. Une des toutes premières fois où j'ai fait du jeu de rôle, c'était avec un ami qui était, c'était sa première fois aussi quasiment. Il avait acheté le bouquin et il s'est mis en MJ lecteur. Et on était rendu au point où, quand on visitait un lieu où on sentait qu'il improvisait, on se disait, c'est pas là quoi. Il est pas en train de lire une description, donc c'est qu'on n'est pas dans un. C'est exactement ce que tu disais.
Pas de nom.
Ouais, voilà. Et puis c'est mal décrit. Oh, il doit rien avoir là-dedans. Je pense qu'on aurait dû prendre notre porte.
Sorti de la map.
C'est exactement ça, voilà. Et donc effectivement, peut-être que ce genre de MJ existe, mais non, pas vraiment, puisqu'on imagine qu'au bout de 2-3 fois, il va prendre la main et puis se mettre à devenir un vrai MJ qui est capable de faire preuve de créativité face à
quand il mène. Moi, il me semble quand même que quand le MJ lit, entre guillemets, il fait preuve de créativité parce que, il improvise la façon dont il lit. Si j'ose dire, du coup, il se retrouve dans une position étrange. Qui est une position de lecteur. Et en tant que lecteur aussi, on a une marge d'interprétation aussi. Mais là, du coup, c'est encore la créativité. Par contre, il ne fait pas du tout preuve d'originalité pour le coup, puisqu'il dit exactement ce qui est dans le bouquin.
Si je peux me permettre, tu as Olivier Caillera qui explique que un jeu de rôle, c'est incomplet, contrairement à un jeu de plateau. Dans un jeu de plateau, en fait, tous les cas de figure, ils sont prévus et gérés par les règles. Tandis que dans un jeu de rôle... Comme c'est un jeu de rôle, c'est impossible. Les règles, elles peuvent pas tout prévoir. Et donc, il y a toujours un moment où le MJ, il aura pas la réponse dans le bouquin, en fait.
C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure quand je te disais qu'il me semble que le jeu de rôle, c'est par par définition le jeu qui te pousse forcément à la créativité. C'est-à-dire, t'es condamné à être créatif avec le jeu de rôle. C'est ça que je voulais dire, Pika.
Pour moi, finalement, c'est du au niveau du MJ, c'est nuancé finalement. C'est-à-dire, c'est plus ou moins créatif. La seule frontière que je vois, moi personnellement, c'est si t'es le genre de maître de jeu qui va utiliser des scénarios officiels, des campagnes officielles et compagnie, entre guillemets du matos de l'auteur, ou si t'es plutôt le maître de jeu qui va se contenter du bouquin de base, des règles, et par rapport à ça, va partir sur son propre délire et compagnie. Je pense que c'est. Voilà, il y a ces deux écoles, point barre.
Moi, dans Sens, par exemple, j'ai pris un parti. Je suis désolé parce que je suis en bout de table, alors je vois pas qui veut participer si je coupe des gens. Je suis désolé.
Non,
dans Sens, par exemple, j'ai pris le parti de faire des, entre guillemets, des petites nouvelles. En fait, c'est pas vraiment des scénars, c'est plutôt des petites nouvelles. Et je dis, en gros, bah, vous, meneur, vous lisez ça tranquillement dans votre coin, au lit, bien au chaud ou sur votre tablette. Et vous vous en inspirez pour faire vivre des aventures à peu près similaires à vos personnages ensuite. Donc là, du coup, t'es obligé d'être créatif parce que si tu lis les nouvelles présentes dans le sens tel quel, en fait, elles racontent l'histoire d'autres personnages qui ne sont pas tes joueurs. Donc, du coup, tu peux pas t'en servir. Donc là, du coup, moi, j'ai, en tout cas, dans le sens, je crois que je pousse mon MJ. D'ailleurs, en fait, je dis je crois, mais je sais, parce que il y a plusieurs revues qui l'ont dit et qui l'ont publié et qui l'ont commenté. Sens est un jeu qui demande beaucoup de créativité de la part du meneur, beaucoup de, même certains se risquent à dire du travail, parce que les épreuves ne sont pas, justement, clés en main. Comme tu disais, il n'y a pas de map, il n'y a pas de mapping où tu sors de la map ou je sais pas quoi.
Mais, enfin, de toute façon, Jeff, au bout d'un certain temps, en tant que maître de jeu, quand tu aimes un univers, que t'as envie de passer du temps à le maîtriser, au bout d'un certain temps, t'es forcé d'augmenter ton côté créatif, je dirais. Parce que, en gros, tout simplement, tu vas finir par, qu'on appelle ça, tu vas finir par épuiser les scénarios, les campagnes officielles, les synopsis, tu me citais du L5R, par exemple, les fameux défis focus frappe, qui sont listés par paquet dans les bouquins. Au bout d'un certain temps, tu vas finir par faire le tour de tout ce qui peut être début de synopsis, accroche de petits scénarios, et tu vas être obligé de les faire toi-même comme un grand. Donc, on va dire, c'est...
Ça dépend, si tu joues à Pathfinder, tu seras jamais à court de matériel publié, quoi. Par exemple.
Mais...
Tu n'as pas assez d'heures dans ta vie pour faire tous les scénarios publiés.
Pourquoi pas? Je pense que ça peut arriver quand même, quoi. Des personnes qui, ils cravachent quand même pas mal et au bout d'un certain temps, le maître de jeu se dit bon, là, je suis obligé d'inventer.
Ouais, les gars, on a fini tous Pathfinder, on fait quoi là maintenant?
C'est un peu, tiens, j'ai fini World of Warcraft, ouais. J'ai fait toutes les quêtes de World of Warcraft,
je fais quoi maintenant? LG.
Ouais, c'est Dragon qui avait reçu, ou Donjon qui avait reçu le magazine, qui avait reçu une lettre. 80-82. Bon, monsieur Gigax, quand c'est ce que vous écrivez, le Deity en 2002, on a déjà tué tout ce dur.
On est vieux bourrin, quoi. Bon, voilà, c'est là au niveau du meneur.
Attends, si je peux me permettre, Jeff, c'est très américain aussi, ça, comme mentalité. Moi, ça me fait...
C'est une vieille anecdote, on n'a jamais, enfin, je
sais
pas.
C'est une urban légende.
Non, c'est un article, enfin, c'est une lettre qui a vraiment été publiée. J'ai vu les scans de l'article et tout. Oh, donc, non, ça a été vraiment, mais après que la lettre était soit réelle ou pas, c'était le tout début du jeu de rôle.
Bon. Bah, tu sais, je vais te dire, moi, ça me fait penser, cette anecdote-là me fait toujours mourir de rire. Côté White Wolf, on envoie quand même, un type a envoyé une lettre à White Wolf Magazine en disant, bon, bah, voilà, je viens de faire la campagne Rage Across Russia. Je joue une ananasi abomination, donc c'est-à-dire une ananasi qui en plus est vampire. Et ananasi, c'est quoi? C'est une araignée garou. Donc une araignée garou vampire de la 7e génération. Je viens de diaboliser Baba Yaga qui est 4e génération. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je passe 4e ou est-ce que je passe 6e? Ouais. Tu vois, ça c'est américain comme comportement, si je peux me permettre.
C'est une vraie question importante.
Ah oui, non, énormément.
Le côté émulation, en fait. Mais en fait, derrière tout ça, il y a une question aussi, c'est jusqu'où est-ce que le jeu de rôle doit être une émulation de quelque chose, et si oui, de quoi ça doit être l'émulation? D'un truc réaliste, entre guillemets, ou pas, tu vois? Enfin, pas d'un truc réaliste, mais... Enfin, il y a un côté...
Sujet d'un prochain podcast. Ouais, de quoi le jeu de rôle est-il le nom?
Ouais, ça c'est une putain de question. On passe à la suite, ou est-ce que tu penses avoir fait le tour sur le meneur?
Si je peux me permettre, pour conclure,
On pense. Pas des joueurs.
Pour conclure sur le MJ.
Ah
après,
pardon.
Pour passer à la suite. Ouais. Ouais, ce qu'on a vu, c'est que bon, effectivement, entre le MJ qui lit le scénario, qui choisit des scénarios hyper balisés et qui va entre guillemets les lire, ou alors qui va utiliser des univers très très codés et qui va interpréter ces codes très fidèlement. Et puis le MJ, quand il achète un bouquin, il a déjà prévu qu'il allait remplacer les nazis par des loutres cybernétiques, qu'il allait tout passer sous GURPS et qu'il allait changer le format de dés. Bon bah il y a
mais Arthur connu.
Voilà, c'est... Non mais quand t'es en conve, t'as des trucs comme ça, hein, des anecdotes. Il a encore pas acheté le bouquin que déjà il a fait son truc complètement. Il a fait son propre monstre. Bon bah il y a vraiment tout un éventail de l'un vers l'autre, mais en fait même le MJ lecteur, il est obligé d'être créatif, même si c'était pas prévu, mais il va finir par sortir à un moment. Il sera plus dans la map et il va être obligé d'improviser, quoi.
Je peux te poser une question, Picard. Pourquoi quand tu as préparé ce sujet, tu as pensé MJ parce que aujourd'hui on sait que le jeu de rôle peut facilement se passer du meneur, même si son rôle est réparti sur d'autres joueurs et tout. Mais
ouais, t'es gentil de dire facilement. Hein. Non, on va y venir. T'es en train de faire la dernière partie.
Ah d'accord, ok.
Je voulais juste te dire pour conclure sur le MJ. Moi, quand j'étais petit, je jouais à HeroQuest, le jeu avec des figurines.
Oh,
et ce qui était marrant, c'est que t'as une dizaine de quêtes hein, où tout est écrit. Alors, c'est vraiment un pur jeu de plateau hein, parce que tout est scripté, quoi. Et en fait, quand t'as fini les 10 quêtes, bon, c'est nettement plus rapide à faire que finir Deities and Demigods. Hein. Quand t'as fini les 10 quêtes, en fait, t'as un plan vierge et puis c'est fait. Ah, bah maintenant, démerdez-vous, faites votre propre quête.
Bah déjà, moi, vite fait, tu veux qu'on sorte des anecdotes et requests, moi, il y en a quelques-unes que je peux te balancer. Donc déjà, effectivement...
Alors je tiens à dire que le podcast de la Cellule n'est pas le lieu des anecdotes et requests. On en a déjà eu pas mal ici.
On est d'accord, ok, je ferme ma gueule.
Donc, si on pouvait avancer sur ce sujet.
Donc, dernier thème, c'est... Bon, on a vu que bon, les mecs, pour écrire le jeu de rôle, ils ont quand même dû un peu bosser. Également, le MJ, finalement, même avec un bouquin super fignolé, il est obligé de bosser de son côté.
Ouais.
Et finalement, le joueur, est-ce qu'il doit être créatif ou est-ce que, justement, il souhaite être tout sauf créatif ?
T'as jamais eu de joueurs qui te font 15 pages de background avant de commencer à jouer ?
Pika.
Alors, il y a cette créativité-là. Alors, c'est ces joueurs-là, par contre, une fois qu'il a écrit son background, qu'il le file au MJ, c'est le MJ qui contrôle tout le reste, quoi. Si tu veux, le joueur là, il veut une fois qu'il a commencé à jouer, il a pas envie d'inventer l'univers autour de lui, ou il va pas rajouter des réinventer des détails.
Ça dépend, mais je suis pas d'accord au sens où ça dépend complètement des joueurs.
Mais oui.
Là, tu généralises des choses qui sont pas. Enfin, t'as des joueurs sans tourette, comme dit Croc, et puis t'as des joueurs super actifs, super réactifs et même proactifs qui t'inventent le scénario avant que t'aies eu le temps de l'écrire.
Ouais, carrément. Des gens qui te disent ce qu'il y a dans la pièce. Alors tu te dis, attends, je suis quand même meneur. Parfois, il y a des joueurs, t'es obligé de les reprendre. Genre, attends, c'est moi qui est censé décrire.
Ouais, et puis après, t'as des joueurs qui. Non, mais c'est très bien d'être. Ils vont juste intervenir une fois de temps en temps sur des choses, mais de toute façon, puis même ces joueurs-là, enfin, encore une fois, si on repart sur la question de la créativité en tant que trouver des réponses à des questions, à partir du moment où le MJ fait son boulot de poser les questions, les joueurs doivent trouver des réponses.
Donc, pour toi, un meneur, c'est quelqu'un qui pose des questions.
Bah, ouais.
C'est intéressant comme. Non, mais t'as raison, il pose des questions.
La première question, c'est vous arrivez dans une pièce, il fait noir, il y a trois portes, que faites-vous ? Si c'est pas une putain de question, la question originale.
Je suis d'accord avec toi.
Je veux dire, tout tourne autour de ça, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Et comme dit Alias, que faites-vous et habillé comment ?
Mais tu vois, justement, c'est loin. c'est loin de la question de Picard, parce que dans ce cas-là, les joueurs n'ont pas le choix. Là encore. Le jeu de rôle ne leur laisse pas le choix. Ils doivent être créatifs. Quand le meneur te pose une question, tu dois être créatif et répondre.
Tu dois. En tout cas, tu dois inventer des réponses, imaginer des réponses à des à des problématiques. Et ça peut passer par simplement faire un jet de dés. Dire OK, j'utilise telle compétence et telle caractéristique. Ça peut juste être ça. Il y a pas besoin. Mais il faut juste trouver la bonne compétence et la bonne caractéristique. Sauf si le MJ te dit, OK, vous arrivez, il fait noir, OK, faites-moi un jet de ça. Auquel cas, là, t'as pas, t'as juste à lancer les dés, à la limite, mais c'est rarement ça. Ou si ça l'est, c'est, ce n'est qu'une partie du jeu. Et le reste du temps, on te demande quand, enfin, quand t'es joueur, on te demande quand même d'être, de trouver des réponses ou d'être astucieux au sens premier du terme, quoi. Ouais. De trouver des astuces, de trouver, on te pose des énigmes, des puzzles, des questions, des charades qui prennent des formes très diverses, hein. Et à toi de poser des questions au MJ pour te faire une idée, quoi.
Donc du coup, Pika, j'ai envie de te poser une question suite à ça. D'où te vient cette idée que le joueur aurait envie d'être passif?
Alors,
pourquoi
en fait,
tu dis ça?
Je suis tout à fait d'accord quand Grumph dit que la plupart des joueurs, ils ont envie de pouvoir réagir. Voilà, effectivement, si le MJ leur dit tout ce qu'ils doivent faire, ça va pas les intéresser.
D'accord.
Donc, effectivement, si les joueurs, ils ont envie qu'on leur demande justement ce qu'ils font, quoi. Et inventer que le MJ leur balance des problèmes dans la gueule et qu'eux, ils démerdent, qu'ils sont inventifs pour trouver des solutions, quoi. Où effectivement, ils vont prendre, comme le Gruff le dit, ils vont prendre leur pied à imaginer un background de 15 pages. En fait, à partir de ce moment-là, en fait, avant que le jeu commence,
ouais.
Eh ben, le joueur, en fait, il a imaginé sa partie d'univers, parce qu'il va imaginer une corpo qui court après depuis le début. Il va imaginer sa femme, ses gamins. Il va te sortir 15 photos de son appartement, de sa moto, de son perso, tout ça. Mais en fait, la question que je pose, c'est par contre, c'est un problème qui est posé par la narration partagée. C'est, est-ce que le joueur, il a, à partir du moment où le jeu commence, est-ce qu'il a encore envie d'imaginer l'univers, ou est-ce qu'il veut pas juste jouer son perso, tu vois? C'est-à-dire que si le MJ dit tiens, tu trouves une boîte fermée, quand tu l'ouvres, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que le MJ, est-ce que le joueur, ça l'intéresse de répondre à cette question?
Là, tu parles de la créativité sur l'histoire. C'est ça, dans la narration partagée, la créativité. En fait, la créativité qui manque aux joueurs dans la narration qui n'est pas partagé,
jeu de rôle
traditionnel soi-disant, c'est de la créativité sur l'histoire, d'accord. Mais par contre, il a de la créativité sur tout le reste, l'imagination, comment il imagine les scènes que son MJ lui décrit, comment il imagine ses réactions vis-à-vis de ces scènes, comment il interprète son personnage, et c'est là qu'est sa créativité dans le jeu de rôle traditionnel. Et après, attention, il y a plusieurs types de jeux de rôle traditionnels aussi. Et il y a aussi plusieurs manières de laisser... On peut laisser de la liberté, même sur la narration, à ses joueurs. Il y a le jeu de basse dans la théorie du MJ, du jeu de rôle, pour parler de... Parce qu'en fait, indirectement, tu es en train d'introduire des concepts un peu forgiens dans ce podcast. Et voilà, c'est... LG, tu voulais intervenir, excuse-moi.
Non, je le trouvais étrange de réduire, en fait, chaque fois qu'on pose une... Tu as l'air de réduire tes questions de créativité à des points extrêmement précis. Je ne sais pas pourquoi tu réduis. Qu'est-ce qui fait que tu réduis à ces questions-là? C'est-à-dire là, en l'occurrence, le fait que les joueurs aient envie ou non d'imaginer le monde au-delà de leur personnage, ou simplement d'imaginer. Ce que je veux dire, c'est que c'est une focalisation sur un truc extrêmement précis, extrêmement pointu de la question originale qui était plus large. De la créativité, en gros de l'apport, du joueur en tant qu'imaginaire, etc. Pourquoi est-ce que tu réduis comme ça pourquoi est-ce que ça te tu focalises autant? Est-ce que ça, il y a un truc derrière?
Pourquoi tu me réponds ce que tu viens de me dire?
Parce que, ouais.
Ouais, je.
C'est en fait, je fais l'âne pour avoir du son, quoi.
Ouais, on peut te donner du son, ouais, mais.
On en donne à nos auditeurs, en tout cas.
Ouais. Mais non, mais après, mais c'est une question qui est pas inintéressante, enfin, au sens où de savoir qu'est-ce que tu peux faire pour forcer les joueurs, forcer au sens large, mais amener les joueurs à participer de telle ou telle manière au jeu. Est-ce que effectivement tu peux avoir un jeu qui va les amener à s'occuper que de leur personnage? Et c'est essentiellement leur personnage et leur relation avec les autres personnages. On joue en ce moment à Monster Heart. C'est vrai que L'univers passe par les personnages, et donc les questions que le MJ nous pose pour créer nos persos, etc. C'est des questions qui sont liées à nos personnages, donc directement à nous. Moi, quand je fais jouer à Oltrey ou à Panopticon, etc., et que je demande à mes joueurs d'imaginer le monde, enfin, d'amener des éléments du monde, des histoires, des choses, etc. Effectivement, ça concerne pas forcément leur personnage. Ça peut concerner des choses qui ne concernent pas du tout leur personnage, justement. Mais ça, c'est des outils qu'on met en place. Puis après, effectivement, tu peux avoir d'autres jeux où tu mets pas du tout ces outils en place parce que t'en as. C'est pas l'important. L'important, c'est comment les joueurs vont réagir. Quand je joue à DD4 avec cet après-midi avec les joueurs, j'attends pas des joueurs qui m'inventent le monde, voire même j'attends pas qu'on fasse de la narration partagée. Les descriptions, c'est moi qui les fais, j'amène les choses, etc. Par contre, j'attends qu'ils fassent preuve d'imagination pendant les combats, pendant les défis de compétences, etc., pour trouver des solutions aux problématiques que je leur pose, qui sont les ennemis, le terrain, les conditions générales du combat ou de l'obstacle, etc. Là, j'ai l'impression que tu resserrais sur quelque chose qui n'est qu'un point particulier d'un truc beaucoup plus large.
Est-ce que tu penses à un joueur de jeu vidéo qui joue dans un open world, par exemple dans un monde open, dans un monde tout ouvert, donc tu sais, un grand bac à sable si tu veux, comme GTA, etc. Est-ce que tu penses qu'il est créatif, un joueur de jeu vidéo Je pose la question à Thomas Munier. Parce que si tu me dis oui. Ouais. Ça veut dire que de toute façon, même si on a un meneur en face de nous qui a toute autorité sur l'histoire et tout ça, il restera toujours de la créativité aux joueurs. Pour répondre à ta question initiale, j'entends la critique de Grumph sur ta question, c'est-à-dire qu'il remet en question ta question en elle-même. Moi, je veux répondre à ta question. Je pense qu'il reste de la créativité quand même. Hein,
en fait, je pense que...
Il n'en a pas sur l'histoire. Il n'y a pas de créativité sur l'histoire. C'est le programmeur qui l'a.
Ce que vous nous expliquez, c'est que la créativité du joueur, eh ben, il y a des milliards de nuances.
Ouais. Ah, tout à fait.
C'est-à-dire que effectivement, t'as des joueurs, ils vont arriver, ils vont même demander au MJ, s'il te plaît, par pitié, fais-moi un perso pré-tiré, je veux surtout pas imaginer à quoi ressemble mon perso, imagine mon perso, ou alors à l'inverse, ça peut aller complètement à l'inverse, où le mec non seulement il imagine son perso, mais il va imaginer toute une histoire de fou, alors je viens de tel pays, alors ce pays-là, il fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, et puis même effectivement, pendant la partie, il va carrément dire, bah, je vais aller dans le bar qui est tenu par Gus, c'est un vieux pote de l'armée et tout, claque, c'est pas dans le scénar du MJ, quoi, hein. Et puis ainsi de suite, t'as les fameux jeux anarchistes où là ça peut aller beaucoup plus loin. Je vais donner un exemple. Une fois on jouait à Inflorenza, donc qui est un jeu à narration partagée, je commence à décrire une ville, et puis le joueur juste après moi en fait fait ouais, ok, bah il y a une armée qui arrive et ta ville ils la rasent complètement. Donc voilà, ça va de s'il te plaît, ne me crée pas un perso, à ouais bah t'es gentil, la super ville que tu m'as décrite, c'est plus que de la cendre.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que la créativité d'un joueur peut nuire à celle d'un autre joueur? Excuse-moi, je suis.
Ah non, c'était parce que je t'ai pris un exemple violent.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ça aurait pu être au contraire, beaucoup plus. Parce que là, j'ai pris un exemple destructif. Ça pourrait être l'inverse, où effectivement, le mec, le joueur qui est censé être simple PJ, d'un coup, il imagine toute une ville.
D'accord, ouais, c'est ça.
Et c'est ça qui est. En fait, c'est ça qui me fascine.
Moi,
c'est le fait que t'as des milliards de nuances de ce que tu peux apporter, mais que d'un joueur sur l'autre. Le fun sera complètement différent, quoi. C'est le joueur, il va placer son curseur vraiment où il veut pour s'amuser, quoi.
Moi, j'en reviens vraiment à la notion de créativité. C'est que, en fait, la créativité n'existe pas sans contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, la créativité, c'est un chemin que tu trouves dans un ensemble de possibilités. C'est ça, en fait, la créativité. D'où le fait qu'il n'y ait pas d'originalité, parce qu'en fait, tu prends un ensemble de mondes possibles et tu prends les morceaux dans chaque monde possible qui t'intéresse et t'en fais un monde parallèle qu'on appelle un jeu de rôle après. Et en fait, le truc, c'est que la créativité, ça ne peut exister que dans un univers où il y a des pièces qui ne bougent pas, des éléments fixes. et dans lesquels tu vas évoluer. En gros, c'est la notion de jeu au sens le jeu d'une pièce dans une machine. C'est une comparaison qui plaît beaucoup à Fabien Invine, qui a l'occasion de participer de temps en temps à ce podcast. C'est cette idée qu'en fait, dans le jeu de rôle, le mot jeu, en fait, ce serait bien qu'on lui donne cette référence de jeu au sens la pièce qui bouge dans un ensemble de possibilités données par un système. Sous-entendu, le joueur, il joue parce qu'il y a un système qui le cadre, et c'est au sein de ce système, c'est-à-dire au sein d'un ensemble de contraintes, qu'il va trouver sa créativité et sa liberté. Pas de liberté sans contraintes, c'est un petit peu... Et donc on en revient à mon histoire du livre où je dis, bah voilà, quand il y a des contraintes, ça nous pousse à être créatifs. En France, on n'a pas d'argent, mais on a des idées, c'est exactement le même ordre d'esprit. C'est l'idée que les contraintes vont nous pousser à faire preuve de créativité. Donc, dans ce cadre-là, un MJ peut être dirigiste autant que tu veux et tout ce que tu veux. Il va être ultra déterminé et tout, tant qu'à un moment donné, il laisse une possibilité à... B, mettons, même, tu peux très bien imaginer un jeu dans lequel les joueurs autour de la table n'ont que une souris avec un clic droit, un clic gauche, et tu vois, t'as des règles, avec, ils n'ont que deux possibilités, tu vois. Typiquement, par exemple, Sombre, c'est un jeu dans lequel, moi, je trouve, on est un peu, ça me fait penser à du hack and slash. C'est-à-dire que, du coup, on est toujours en train d'attaquer. Et c'est comme si, dans Sombre, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule possibilité, c'est j'attaque. Et le système tout autour ne donne pas. Et ben, ce jeu, il est fonctionnel, et la créativité, du coup, vient de quand est-ce que tu appuies sur le bouton attaque? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où t'as du choix, t'as de la créativité. Dans ce cadre-là, voilà, c'est comme l'a dit Grumph au départ dans la question, c'est-à-dire la créativité. De toute façon, la question, là, dans ce sens-là, il y en a partout. Après, dans la question, c'est la créativité sur l'histoire, la narration, sur le sens que va prendre l'histoire, etc. Et là, je sais pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des jeux qui donnent la... En fait, justement, là, par contre, c'est l'ensemble des possibilités, des notes sur le clavier, en fait. Qu'est-ce qu'on te donne comme touche? Est-ce qu'on te donne la touche histoire ou pas, quoi?
Et bien surtout, en fait, à partir de quand ça cesse d'être fun, hein, parce que tu sais, en fait, si tu donnes aux joueurs les clés sur tout, bah, est-ce qu'ils continuent à s'amuser, en fait? Par exemple, quand on joue, si tu joues à Shadowrun, que tu joues une équipe de runners, le MJ il a préparé tout son plan, comment ses ennemis, ses corpos, tout ça machin. Ce qui t'intéresse quand tu joues à Shadowrun, c'est que tu sais pas ce qu'il y a dans l'immeuble que tu vas infiltrer quand tu vas en commando. Ça t'intéresse pas d'inventer quels sont les systèmes de sécurité. Ça t'intéresse pas d'inventer quels sont les mobs à l'intérieur.
Là, il y a une espèce de principe de Shege.
Tu veux surtout pas les inventer parce que ce qui t'intéresse, c'est le flip de savoir ce qu'il y a à l'intérieur et comment tu vas démerder. Enfin, oui.
Mon expérience perso. De trucs d'action de type cyberpunk ou action moderne, techno-thriller, etc., dans lequel tu laisses la possibilité aux joueurs de se foutre dans la merde, d'inventer leurs propres obstacles, et tu leur donnes les outils de s'en sortir sans forcément être obligé de flinguer tout ce qui se passe devant. Les joueurs, ils adorent. Enfin, moi, en tout cas, que ce soit en convention ou à ma table, etc., les outils que moi j'utilise, les règles, le jeu d'intrusion, les points de débrouillardise, etc., font que...
C'est pas incompatible, vos deux propos, je crois.
Ce que je veux dire, c'est que après, encore une fois, ça dépend des joueurs. Moi, j'ai ma femme déteste tirer des cartes pour inventer des choses. Elle aime pas ça, ça la gave. Elle passe son tour systématiquement, c'est pas son truc. Elle doit maîtriser une fois tous les 10 ans, et il lui faut 10 ans pour écrire un scénario, quoi.
Mais elle va être créative dans d'autres domaines.
Mais elle va être créative dans la manière dont elle joue ses persos, dont elle trouve des solutions, dont tout d'un coup elle met en relation deux faits qui intuitivement deux faits qui ont pas forcément grand chose à voir, mais d'un coup elle fait oh putain, et elle voit des choses arriver et elle devine la fin des Rivières pourpres au bout de 20 minutes de film. Ça marque qui n'a pas deviné la fin des Rivières pourpres au bout de 20 minutes de film. Mais non, enfin vraiment, elle le fait, quoi. Je veux dire.
Et c'est ça, en fait, sa créativité, elle est là. C'est qu'en fait, elle est dans l'imagination, dans son interprétation, et ce qu'elle aime, c'est voir avant de voir, en fait.
Mais ce que je disais, c'était que c'était pas parce que t'avais l'air de placer comme une
Thomas,
espèce de
t'avais l'air
d'évidence. Les joueurs n'aiment pas, non, certains joueurs n'aiment pas et d'autres n'attendaient que ça, que les outils pour pouvoir le faire.
Ouais, tout à fait.
Bon, est-ce que.
On peut aller jouer?
La question réponse suffisante. Enfin, est-ce que plutôt les réponses te satisfont Thomas?
Bah moi je ouais, ça m'a bien intéressé. Bon bah on va réfléchir moins et puis jouer plus maintenant.
Voilà, c'est ça exactement. Allez, à bientôt tout le monde, réfléchissez moins, jouez plus.
Salut, à la prochaine.
À la prochaine.
Salut.